Camionnette.
Catastrophe en Haïti, l'ONU et le choléra, aide humanitaire, ouragan et élections. Mi-août 2016, l'Organisation des Nations Unies reconnaît à demi-mot son implication dans l'épidémie de choléra en Haïti, apparue suite au séisme de 2010. La maladie absente du pays jusqu'ici a officiellement touché 800 000 personnes et fait plus de 10 000 morts. Dans ce pays de 10 millions d'habitants environ, considéré comme le plus pauvre et le plus inégalitaire du continent américain, le tremblement de terre avait déjà causé la mort de 230 000 personnes, en avait blessé 300 000 et détruit les abris d'1 300 000 habitants. Aucune fatalité, c'est la misère et le délitement de l'État haïtien sous la pression internationale qui sont la cause de ces catastrophes. Des catastrophes dites naturelles ainsi préparées, comme l'écrit justement Frédéric Thomas. Quand l'ouragan Matthew en novembre 2016 provoque la mort de 6 personnes en République dominicaine, pays voisin qui partage le même territoire ilien, il en tue 1000 en Haïti. C'est le travail de l'épidémiologiste Renaud Piarou, à la rencontre duquel nous sommes allés, ici à Marseille, qui a révélé le scandale du choléra onusien. Un scandale malheureusement emblématique d'une influence internationale très ambivalente, jusqu'à l'aide qui a suivi le séisme. Une aide humanitaire assez massive, bien que nécessaire dans l'urgence, qui semble conforter à moyen et long terme une politique économique discutable qui sert surtout les intérêts d'entreprises et puissances étrangères. Une aide trop souvent mal coordonnée et inappropriée, c'est ainsi que le politologue Frédéric Thomas, spécialiste d'Haïti, n'hésite pas à titrer son ouvrage de 2012 « L'échec humanitaire, le cas haïtien ». C'est pourquoi l'on a également voulu recueillir un point de vue haïtien sur la présence étrangère dans le pays avec une interview d'Ashley Larac, membre de la société civile que vous retrouverez en deuxième partie d'émission, réalisée à l'orée d'élections présidentielles, reculée pour cause d'ouragan. Mais pour l'heure, je vous propose donc d'écouter le professeur Piarou de l'hôpital de la Timone à Marseille, missionné en Haïti en 2010 pour mettre à jour l'origine de l'épidémie de choléra. Son rapport s'est trouvé en butte, 6 ans durant, au déni de l'ONU et de l'Organisation mondiale de la santé, entre autres, avant que les Nations unies ne reconnaissent enfin partiellement le rôle qu'elles y ont joué. Et quel rôle ? Professeur Piarou, bonjour.
Bonjour.
Donc pour commencer, je voulais vous demander peut-être de revenir en octobre 2010, le moment où vous avez été, si je ne m'abuse, mandaté par l'ambassade de France pour réaliser un rapport pour le ministère de la Santé d'Haïti concernant la déclaration et le développement de l'épidémie de choléra qui a fait plus de 10 000 morts depuis et où vous avez pointé du doigt la responsabilité de l'ONU dans cette épidémie. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu dans quelles conditions vous et votre équipe vous avez travaillé à cette époque pour pouvoir réaliser ce rapport ?
Donc cette mission a été demandée par l'ambassade de France qui a été sollicitée par le ministère de la Santé haïtien. En fait, il se trouvait face à une épidémie de choléra d'une ampleur déjà extrêmement importante, avec des centaines de morts par jour, ou presque une centaine de morts tous les jours au début de l'épidémie, et puis ça remontait à nouveau. Et chose curieuse, personne ne voulait rechercher la cause de cette épidémie. En fait, c'était une épidémie qui avait été amenée par des soldats népalais qui avaient eu le choléra, qui avaient rempli une fosse septique de matière fécale extrêmement contaminante, extrêmement contagieuse. Et cette fosse septique a fini dans une rivière haïtienne, provoquant un désastre sanitaire, comme vous l'avez dit, presque 10 000 morts officiellement, probablement beaucoup plus.
Par rapport aux conditions de travail que vous avez affrontées là-bas, vous avez travaillé, vous avez été, je dirais, bien accueilli, vous avez travaillé dans quelles conditions ?
J'ai travaillé en marchant sur des œufs, de manière à comprendre ce qui s'est passé. En fait, ce qui m'a été demandé, c'est pas de faire un rapport sur la responsabilité de qui que ce soit. Ce qui m'a été demandé, c'est d'expliquer cette épidémie, sa dynamique, et de montrer les éléments qui permettraient peut-être de la contrer, et en tout cas d'éviter une récidive. Donc de ce fait, on a besoin de savoir la source de l'épidémie. C'est une partie du travail, mais ce n'est pas la totalité.
Alors entre le moment où vous avez remis ce rapport et le moment où l'ONU a admis une responsabilité, on va dire partielle, en tout cas c'est pour reprendre plus ou moins les mots de son secrétaire général, il s'est quand même écoulé presque 6 ans. Et entre-temps, il y a eu toute une vague de tentatives d'explication de cette épidémie qui frise la désinformation, j'ai envie de dire.
Oui, on est sur un cas de désinformation, puisque dès le début de l'épidémie, certaines agences de l'ONU et des agences aussi américaines, le Center of Disease Control, ont essayé d'orienter vers une cause plus neutre, en quelque sorte, climatique, environnementale à cette épidémie. Et pour ce faire, même les données de base ont été, on va dire, modifiées ou présentées sous un angle tout à fait particulier, selon le type d'agence qui intervenait. Mais par exemple, la branche américaine de l'OMS, la Pan American Health Organization, juste effacé les premiers cas qui étaient dans le département du centre. Bon, il n'y en avait que 1500 et quelques, c'est pas de la première semaine de l'épidémie, pour faire penser que ça avait démarré dans un autre département et orienté vers une cause environnementale. Donc ça a été la manière dont les choses ont été faites, avec des communiqués de presse aussi expliquant que, selon le ministère de la Santé, le choléra avait débuté dans la plaine de l'Artibonite, mais à une date antérieure à l'arrivée des soldats népalais, juste pour désorienter la recherche épidémiologique. Et ça a relativement bien marché, puisque au moment où mon rapport a commencé à diffuser, il y a eu vraiment une levée de boucliers. C'est quoi cette histoire? C'est pas prouvé, c'est des rumeurs, c'est des choses comme ça. Et ça a été quand même un peu dur de faire avancer la vérité dans cet environnement.
C'est la raison pour laquelle vous avez accepté que votre confrère Ralph Frerix, c'est ça, publie ce livre, Daily River, pour faire un peu la lumière sur votre démarche et surtout ce parcours qu'a fait ce rapport.
Alors c'est vrai que assez rapidement après, alors j'ai pas remis le rapport d'une manière assez officielle, et c'est même un brouillon de mon rapport qui a diffusé parce que j'en avais envoyé une copie au ministère des Affaires étrangères, enfin à l'ambassade de France exactement, pour les partenaires haïtiens, et les partenaires haïtiens l'ont diffusé. J'en avais envoyé une copie à l'OMS qui a aussi diffusé le rapport, et puis une à MSF qui a fait la même chose. Mais ce n'était pas un rapport fini, pas officiel. Ce que j'avais souhaité, en fait, c'était une condition de mon intervention, c'est que c'est un travail scientifique, donc que je puisse le publier dans une revue scientifique. Et je l'ai publié quelques mois après, il faut du temps pour publier dans des revues scientifiques, quelques mois après, dans la revue du CDC, justement, aux États-Unis, qui a le rédacteur en chef, l'éditeur en chef a accepté de publier cette étude. Lorsque le premier brouillon de rapport a commencé à diffuser, tout de suite des journalistes l'ont mis sur le net, il est devenu accessible, et c'est un collègue américain à l'université de Los Angeles, UCLA, UCLA, qui était très intéressé par cette épidémie, il l'a trouvé bizarre. Et donc, a vu ce rapport, a pris un traducteur en ligne, on va dire, et a essayé de comprendre ce qu'il y avait dedans. Il a vu ce qu'il y avait dedans, il m'a contacté. Et on a commencé à discuter. Et de fil en aiguille est venue l'idée de raconter ça, effectivement. Donc, il a fait un effort extraordinaire pour raconter cette histoire. C'est 4 ans et quelques de recherche, parce qu'il y a le côté investigation, ce que j'ai pu voir, et puis tout ce qui était caché derrière, qu'on a petit à petit exhumé, et qui continue d'ailleurs à être exhumé au fil du temps, montrant que finalement cette opération de désinformation était programmée dès le début de l'épidémie, de manière à empêcher l'ONU de se retrouver face à la situation qui est la sienne maintenant, où un certain nombre de personnes, défenseurs des droits de l'homme, l'accusent de ne pas du tout avoir un comportement loyal, c'est le moins qu'on puisse dire. On parle de débâcle, on parle de honte, on parle de, voilà, enfin de, de scandales de type Watergate à propos de cette attitude de l'ONU dans cette épidémie et la manière dont ils ont essayé de cacher aux victimes ce qui s'était vraiment passé.
Toute cette désinformation qu'il y a eu, ce qui est grave aussi, c'est qu'elle a donné lieu du coup à des modes de traitement de l'épidémie qui étaient inadaptés, puisque...
Voilà, alors par exemple, d'abord pendant 2-3 ans, il n'y a pas eu de plan de lutte contre l'épidémie. Il y a eu juste une réponse d'urgence faite parce que l'épidémie était d'une très grande ampleur. Et donc en 2012, un plan a commencé à être rédigé qui a officiellement démarré au début de 2013. Et la deuxième phrase de la partie qui explique la stratégie utilisée consiste à dire que le choléra est dans l'environnement. Toujours cette thèse environnementale. Et comme il est dans l'environnement, il ne sera pas possible de l'éliminer. Et ce plan, de ce fait, n'a pas été du tout conçu pour éliminer le choléra, alors que c'était tout à fait possible, mais simplement pour... c'est plus un plan de développement pour améliorer l'accès à l'eau, l'accès à la santé, dans un contexte où il y aura toujours du choléra, au moins des cas sporadiques, et il faut en limiter la casse. Donc, effectivement, cette désinformation a eu un impact très important sur la manière dont le choléra a été combattu. Sans l'aggraver, parce qu'elle s'était quand même un peu amoindrie, je pense que ça a contribué à ce qu'elle persiste jusqu'à maintenant. Ça et le manque de financement qui... la fenêtre pour obtenir les financements, ce n'est pas 6 ans après le début de l'épidémie. Personne ne croit plus à la capacité de combattre une épidémie qu'elle a depuis 6 ans. À tort d'ailleurs, mais personne n'y croit plus. Et l'ONU rencontre des difficultés terribles maintenant pour trouver l'argent qui aurait été disponible 2 ans après le début de l'épidémie, au moment où elle commençait à s'amoindrir.
Retour à l'entretien avec le professeur Piarou, toujours à propos de l'épidémie de choléra en Haïti, et notamment suite au passage de l'ouragan Matthew. Il y a quand même, je crois, des progrès qui ont été faits depuis dans le plan de lutte contre l'épidémie. Est-ce que vous gardez, vous, espoir par rapport à l'évolution de la situation et espoir dans la lutte contre l'épidémie de choléra en Haïti ?
Alors, ces progrès ne sont pas venus tout seuls. En fait, face à ce plan, il n'y avait aucune réponse opérationnelle immédiate. Et pour le coup... On a commencé avec le soutien de l'ambassade de France, mais en 2012, à faire des études pour montrer que cette histoire de choléra dans l'environnement était tout à fait douteuse et que la persistance des épidémies, c'était parce qu'on ne les combattait pas, en particulier quand elles passaient sous le radar, quand elles devenaient plus difficiles à détecter. Et l'UNICEF nous a emboîté le pas. Il y avait un représentant de l'UNICEF extrêmement... volontaire qui était Edouard Begbeder, qui était représentant de l'UNICEF en Haïti à l'époque, et qui a dit banco, on y va, et il a commencé avec des fonds de l'UNICEF à contractualiser avec différentes ONG sur le terrain, organisations non gouvernementales, pour justement répondre à toute petite épidémie qui était complètement négligée et qui permettait au choléra de perdurer. La situation s'est améliorée nettement par rapport à la situation de 2012. On n'est pas du tout à ce niveau-là. Et elle varie, en fait, au gré des financements. Quand on a pas mal d'argent, il y a pas mal d'équipes, le choléra régresse. Quand on a moins d'argent, comme au début de cette année jusqu'au mois de juin, et parce que personne ne voulait financer, eh bien, le choléra reprend de la force. Là, puis après, il y a eu après le cyclone, mais... on était plutôt dans une phase positive de la lutte, avec à nouveau une régression, et ça depuis 2-3 mois, malgré la saison des pluies. Donc c'est très dépendant des moyens qu'on met derrière.
Alors le passage de Matthew avec la destruction de bâtiments, enfin je ne parle même pas des pertes humaines, hein, mais destruction de bâtiments, ça veut dire destruction des centres de soins, ça veut dire Matthew, ça veut dire aussi plus de difficultés d'accès à l'eau, ça veut dire des déplacements de population, ça veut dire plein de choses qui, j'imagine, sont ça réunit plutôt les conditions pour une recrudescence de la maladie. J'imagine, vous la voyez comment là, dans l'immédiat, on va dire, la situation, l'évolution de l'épidémie de choléra?
Alors oui, ce sont des conditions favorisant une recrudescence de la maladie, mais en même temps, qui dit urgence humanitaire, dit des équipes qui vont sur le terrain, qui apportent de l'eau, qui, enfin, normalement, quand ça se passe bien, qui distribuent de la nourriture, des abris, et aussi qui vont lutter contre les épidémies. Donc c'est juste un bras de fer où on augmente l'intensité et la force des deux acteurs. Ce qui s'est passé là, si vous regardez la presse, il n'y a aucun doute, il y a une flambée de choléra majeure depuis le cyclone. Ça, c'est faux. Ce qu'il y a depuis le cyclone, c'est des gens qui vivent dans des conditions abominables, où l'aide n'est pas arrivée facilement ou pas du tout encore. Et ils ont donc pas mal de maladies, dont des maladies diarrhéiques. Mais le choléra là-dedans représente une toute petite minorité. Et en réalité, il n'y a pas eu jusqu'ici une flambée de choléra. Mais tout le monde a intérêt à parler de flambée de choléra. D'abord, la presse trouve que c'est plus spectaculaire, c'est plus simple. Donc on a vu des reportages, c'était extraordinaire parce qu'il y a eu des personnes qui manifestement n'avaient pas le choléra, qui étaient interviewées et qui disaient « j'ai le choléra », etc. Enfin bon, les journalistes ne sont pas médecins, ce n'est pas leur job, mais ce n'était pas ça. La presse, donc, bien sûr, pour faire du tirage, le gouvernement haïtien pour attirer des fonds, les ONG pour dire qu'ils font du travail, l'OMS pour justifier ses choix, par exemple, d'envoyer des doses de vaccins pour lutter contre le choléra, sachant que c'est un vaccin dont l'efficacité est extrêmement limitée. Et donc tout le monde finalement dit il y a une flambée de choléra, c'est terrible ce qui se passe, etc. Il faut vraiment intervenir. Et bon, oui, il faut intervenir. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas cette flambée de choléra. Il y a des risques, il y a des petites épidémies au sein d'un environnement extrêmement riche en maladies diarrhéiques. Mais on n'est pas encore sur ces grandes flambées. Mais comment le faire savoir? Et puis, beaucoup de personnes pensent qu'il ne s'agit pas de le faire savoir. Bon, moi, je le dis puisque je n'ai pas l'intention d'aller raconter des bêtises juste parce que ça vaut mieux, ça vaut pas le coup. On n'est pas là pour ça.
Le CERF a débloqué un prêt, je crois, de 8 millions de dollars, il me semble, à l'UNICEF tout récemment, hein, pour la lutte contre le choléra. Donc, en effet, ça vient dans le sens de ce que vous venez de nous dire.
Oui, sauf que ce prêt a été débloqué avant le cyclone et qu'il est à l'origine de la baisse des nombres de cas de choléra. Mais c'est un prêt, moi, je suis quand même, faut être assis là, on est assis tous les deux, c'est bon. Se dire que le CERF, c'est les fonds des Nations Unies, donc ils ont prêté à une de leurs agences en leur disant, hein, vous nous rembourserez quand même, parce que vous jouez là à lutter contre le choléra en Haïti. Enfin, je pense qu'un jour, il va falloir quand même qu'on aille autrement que par des prêts. Mais rien que ça avait amélioré la situation.
Est-ce que vous pensez qu'il y a un espoir pour une forme d'indemnisation des victimes?
C'est en tout cas ce que Ban Ki-moon a promis. Et une personne a été nommée, qui est le docteur David Nabarro, qui dit qu'en gros, il va y avoir 180 millions pour la lutte. Alors ces 180 millions, on sait ce que ça représente. C'est ce que nous-mêmes avons mis sur... un document pour expliquer ce qu'il faut faire dans les 2 ans et demi qui viennent pour déjà limiter la casse et donc pour envoyer des équipes sur le terrain, faire de la vaccination, même si ce n'est pas 100% efficace, hein, loin de là, améliorer l'accès à l'eau et des choses comme ça. Et puis, donc, il prévoit quelque chose comme 200 millions Mais un peu, ça c'est au doigt mouillé par contre, en disant on va donner à peu près la même chose pour les victimes en quelque sorte, je le vois comme ça. Sauf que pour l'instant, personne n'en voit la queue de ces 200 millions, ni des 180 d'ailleurs, on est toujours sur les 8 millions prêtés, c'est pas du tout la même chose, c'est pas la même échelle. Et je ne sais pas si... derrière l'ONU, l'ONU c'est une boîte vide en termes de capacité de financement. C'est les pays. Si les pays ne veulent pas payer, eh ben, les Haïtiens resteront avec la misère qu'ils ont, hein, puisque il faut, à la fin, il faut quand même que quelqu'un paye. Donc moi, je suis très favorable à ce que quelqu'un paye, que ces familles qui ont tout perdu puissent au moins avoir des moyens pour se relever de cette catastrophe. Mais je n'ai pas du tout la garantie que ça va arriver, comme je n'ai pas plus la garantie que l'argent dont on a besoin pour faire une lutte correcte contre le choléra, il faut voir que c'est quand même la plus grosse épidémie de choléra de ces dernières décennies, donc l'argent dont on a besoin soit un jour rendu disponible.
C'était Renaud Piaroux, chef de service du laboratoire de parasitologie de l'hôpital de la Timone. L'histoire de son rapport sur l'origine de l'épidémie actuelle de choléra en Haïti, qui a dévoilé le rôle et l'attitude assez scandaleux de l'ONU entre autres, a été racontée dans le livre Deadly River, ouvrage en anglais de son confrère Ralph Frerichs. Depuis la révolution de 1804, avec laquelle le peuple haïtien a le premier défié les puissances esclavagistes européennes, et la France en premier lieu, l'histoire d'Haïti est faite de violence, de l'incapacité à faire le lien entre peuple et élite, d'une faiblesse étatique, renforcée par de nombreuses interventions et pressions étrangères. À commencer par l'indemnisation que la France impose aux anciens esclaves, cause d'une dette qui ne prendra fin qu'en 1952. Ou encore avec l'impérialisme états-unien, qui d'invasions militaires en pressions économiques diverses contribuera à mener le pays au bord du gouffre, ses capacités agricoles anéanties, livrant une nombreuse main-d'œuvre au bon vouloir d'entreprises avides d'une force de travail à employer selon leurs besoins. Dans les années 70 et 80, par exemple, toutes les balles de baseball de la Major League américaine, tout un symbole, sont fabriquées en Haïti, qualifiées de Taïwan des Caraïbes. En 1994, l'administration Clinton force la main au gouvernement d'Aristide pour déréguler les prix du riz au profit des entreprises américaines. 6 ans plus tard, Bill Clinton admettra son erreur. Aujourd'hui, la fondation Clinton-Bush, dont les objectifs de reconstruction annoncés suite au séisme de 2010 sont très loin d'avoir été réalisés, est la cible d'attaques d'une telle ampleur, allant jusqu'à des accusations de malversation et de corruption, que la propagande de Donald Trump en a fait l'un de ses axes critiques pendant la campagne présidentielle américaine. Ainsi, même si plusieurs ONG font un travail de fond et de qualité depuis plusieurs années, l'aide humanitaire est de plus en plus remise en question. Pendant ce temps, le parc industriel de Caracol, par exemple, financé par les États-Unis et qui emploiera à terme plus de 60 000 personnes dans des industries de sous-traitance, a été construit dans une zone écologiquement très sensible et avec des plans d'aménagement ne prévoyant aucune infrastructure autre qu'industrielle. C'est juste avant la divulgation des résultats finaux, assez discutés de l'élection présidentielle, que nous avons discuté au téléphone avec Ashley Larac, membre actif de la société civile, militant, entrepreneur, chroniqueur et journaliste sur Radio One, que je vous propose d'écouter pour compléter cette émission. Bonjour Ashley Larac.
Bonjour aux auditeurs de Radio One.
Alors d'abord, j'aurais aimé vous demander, qui êtes journaliste, chroniqueur, radio et je dirais en prise avec la vie haïtienne par vos différentes activités,
Quels ont été les effets de l'annonce par l'ONU de sa responsabilité dans l'épidémie de choléra auprès de la population haïtienne?
D'abord, c'est un ouf de soulagement parce que finalement, le peuple haïtien a eu gain de cause, quelque part. Mais c'est surtout le fait que, pour une fois, l'international avoue et admet son implication ou dans quelque chose. La population est très heureuse de savoir ça actuellement. Ça n'a pas donné l'effet qu'on espérait à cause de la politique des élections. Mais toute la communauté salue cette reconnaissance, je peux dire.
Suite au passage de Matthew, j'imagine que de nombreuses organisations humanitaires étaient sur les rangs, mais on va dire l'aide humanitaire a, depuis le séisme de 2010, les critiques qui ont suivi sur l'aide humanitaire, elle a plutôt mauvaise presse, en tout cas y compris dans la presse internationale où il y a plusieurs articles et plusieurs voix qui se sont élevées pour critiquer le fait que l'aide soit assez infime localement finalement, que certaines entreprises américaines ont fait beaucoup de profits, que les efforts de reconstruction avaient été chaotiques, etc. Donc aujourd'hui, suite au passage de Matthew, dans quel état d'esprit la communauté, la population haïtienne envisage-t-elle cette aide humanitaire qui est en même temps nécessaire et discutable?
Je dirais avec beaucoup de prudence et le sentiment d'avoir perdu quelque chose encore en recevant l'aide humanitaire. Puisque cette aide, telle qu'on la connaît, en général, elle asservit plutôt les populations. Il leur donne une habitude de mendicité à laquelle notre peuple n'était pas habitué. Et l'aide humanitaire, en général, ce n'est pas une critique négative que je fais face à elle, elle ne s'exprime qu'en essayant de résoudre les problèmes présents, ceux de la faim, les problèmes d'urgence médicaux. Mais en aucun cas, elle ne prévoit une assistance qui perdurera. Je ne parle pas de l'assistance elle-même, mais qui permettrait aux populations de s'auto-défendre, en quelque sorte, contre ces impondérables. Et si je peux mieux m'expliquer, l'aide qui est donnée maintenant à partir du cyclone Matthew est une aide presque essentiellement alimentaire. Et alors qu'elle aurait dû être plutôt technique, je crois que cette aide-là est surtout mal orientée, parce qu'on ne peut pas discuter par les Haïtiens eux-mêmes. Elle n'est que donnée en fonction de ce que l'international perçoit, sans prendre le temps de venir et de parler aux Haïtiens, de savoir vraiment et ce dont ils ont besoin.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'interlocuteur en Haïti aussi, notamment du côté de la puissance publique, à ces organisations non gouvernementales? Est-ce qu'elles n'ont pas aussi une difficulté à trouver justement des interlocuteurs pour mettre en place une aide qui ne soit pas qu'une aide d'urgence, comme vous le disiez, mais qui permette de construire à un peu plus long terme?
Oui, très certainement. On va en parler que les gouvernements ne sont pas non pas les interlocuteurs qu'il faut face à l'international. Mais il faut savoir aussi que très souvent, l'aide internationale ne passe pas par le gouvernement. Et les dirigeants sont pris à la gorge en général. Ils n'ont pas les moyens de faire face aux urgences. La population est aux abois. Ils sont eux-mêmes menacés en tant que dirigeants. L'aide est nécessaire. C'est-à-dire, nous n'allons pas nier que sans l'international, nous serions en piteux état. Mais elle n'est pas dirigée honnêtement. Elle n'est pas. Pour vous donner un exemple, vous ne pouvez pas assister une population, et même quand il s'agit de formation professionnelle, en quelque sorte, et lui apprendre à travailler sur des outils auxquels il n'aura jamais accès. Je ne crois pas que c'est une aide. Et c'est un asservissement, plutôt. Donc, là où on devrait recevoir l'aide, on ne la reçoit pas. Les acteurs de la société qui s'occupent de former la population, qui s'occupent de faire évoluer la population, ne sont pas écoutés. Ils sont plutôt écartés. Et les seuls gens qui sont écoutés sont ceux qui permettent à ces ces internationaux de justifier une donation et un retour. Si vous voulez, toutes les donations qui sont faites à Haïti, sur chaque 100 euros qui sont donnés en Haïti, 80 euros retournent dans le pays d'origine, le pays donateur, sous forme de salaire aux expatriés, sous forme de déportation de produits à partir du pays donateur, etc. Il y a seulement 20% de retombées pour le pays, en réalité, pour Haïti. Donc ça, nous le savons, c'est la réalité.
Depuis plus de 200 ans, Haïti vit dans la désunion. Quelles sont les causes? Politique, économique, santé, culture, sport, social et éducation? Personne ne peut répondre à cette question puisqu'il s'agit de la conscience. Peuple haïtien, procurons notre liberté dans l'union et ne jamais faire quelque chose contre la conscience, même si l'État l'a demandé.
Voyez, je nous garde et ta pays n'a fin dégradé. Ça nous t'a occupé à l'heure actuelle qui pire gradé. Nous pas j'en fais un yé, au moins pour yo féliciter. C'est chaque jour n'a fait pas, nous pas gagne idée avancée.
Haïti c'est pour nous lier.
Ça ne pas plaît penser pour une solution pour nous avancer. Nous la nappe crasée, brisée, toute journée nappe manifestée.
Retour à l'interview téléphonique avec Ashley Larac depuis Haïti au sujet de l'aide internationale dont le pays bénéficie encore une fois suite à l'ouragan Matthew de novembre 2016.
On a l'impression que l'international travaille sur un complot de dépendance vis-à-vis de ce pays. C'est la perception que nous avons. Mais je crois que effectivement, c'est ce que vous aviez dit au départ. Il n'y a pas d'interlocuteur où l'aide n'est pas analysée comme il faut. Il faudrait que les secteurs indépendants de l'international aussi, du international donateur, viennent eux-mêmes vérifier et expertiser l'aide et contrôler l'aide qui est donnée à ce pays. Puisque si les citoyens français, par exemple, contribue pour que la France nous donne une aide. Il faudrait que des groupes indépendants de citoyens français viennent eux-mêmes constater la manière dont l'aide. Il ne faudrait pas que ce soit nous, les Haïtiens, qui contestions la manière, pas nous seuls du moins, dont l'aide nous est offerte. Il faut des regroupements de citoyens de tous les pays de la Terre pour que chaque groupe de surveillance ou de pression puisse venir voir ce que leur gouvernement fait. Et c'est de leur argent. Il n'est pas normal que nous contentions de critiquer, de juger, alors que nous avons besoin de l'aide. Nous sommes très gênés à le faire, puisque je ne peux pas donner un plat chaud à mon paysan. Je n'ai pas les moyens de le faire. Il faut que ce soit l'international qui me permette de le faire. En même temps, je sais que le plat n'est pas bon. Il faudrait qu'on lui donne du travail, un moyen de survie, un moyen de s'aider lui-même, d'aider ses enfants. Mais à le dire moi-même comme haïtien, c'est comme si je crachais sur l'aide parce que moi, en tant que personne, j'ai de quoi survivre. Donc je me mets en danger en critiquant l'aide.
Merci beaucoup, Ashley Larac, pour ce témoignage. Je voulais vous poser une dernière question. Les élections présidentielles ont eu lieu dimanche 20 novembre dernier, dans des conditions qui ont été jugées satisfaisantes par les observateurs internationaux, disons, sans violence et relativement bien organisés, on pourrait dire, semble-t-il, avec néanmoins 78% d'abstention, apparemment. Est-ce que vous avez l'espoir encore que ces dernières élections apportent un petit peu de stabilité politique au pays?
Je crois que les élections vont apporter une stabilité politique au pays. Parce que, alors, c'est pas le résultat des élections elles-mêmes, c'est parce que l'international en général, pour négocier, on parlait d'aide, justement, les aides et les appuis financiers, les appuis budgétaires, ont besoin d'un gouvernement dit légitime. Donc, le simple fait que un nom va sortir de ces élections, qui aura un élu, où ils pourront négocier. Légitimement avec un gouvernement sur place. Donc, il y aura un apaisement. Et en général, ce qu'ils font, ils injectent beaucoup d'argent pour des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, ce qui permet de calmer un petit peu la tendance ou la révolte des rues en attendant de prochaines élections. Mais le sort d'Haïti à travers les élections, c'est que on nous a imposé une démocratie à l'européenne qui, à mon avis, ne nous convient pas. Je ne dis pas que c'est une dictature qui nous convient non plus. Mais on n'a pas tenu compte de ce pays. Les constitutions nous sont pratiquement imposées. Et mais naturellement, sous couvert qu'on prétend que nous la rédigions nous-mêmes, ou que nous l'avions nous-mêmes rédigée, mais c'est une copie des lois françaises ou des constitutions françaises et américaines. Nous sommes influencés par des peuples qui veulent avoir des critères qui ressemblent aux leurs, alors que nous sommes un peuple complètement différent, avec des coutumes différentes, une manière de faire complètement différente. Il y a beaucoup de similitudes avec la France, par exemple, puisqu'elle nous a colonisés pendant longtemps. Cependant, il y a des différences, et ces différences, on n'en tient pas compte. Il faut des élections, mais la manière dont elles sont organisées, la rivalité qu'il y a entre les partis politiques, le balbutiement des partis de droite, de gauche ou des partis sociaux-démocrates, le manque d'appui de l'international à ces partis politiques, c'est que jusqu'à cette heure, nous n'avons jamais eu de membres de partis politiques à prendre le pouvoir. Jamais. Ce sont toujours des regroupements politiques, mais pas de partis, des regroupements d'individus qui prennent le pouvoir, en dehors de tout cadre de formation ou d'adhésion à un parti politique. La tradition de parti politique n'est pas appuyée par l'international. Ce qui manque à ce pays, ce ne sont pas les politiciens, ce sont les projets.
C'est Jovenel Moïse qui a été élu président d'Haïti. Son élection déjà en octobre 2015 avait été invalidée par le comité électoral provisoire haïtien suite à des irrégularités massives. Des irrégularités constatées encore une fois en novembre 2016, mais pas suffisamment pour annuler cette nouvelle élection. L'accession au pouvoir de cet ancien PDG de la société agroalimentaire Agritrans, poulain du président précédent Michel Martelly, gardien de la classe possédante et affairiste du pays soutenu par les USA et l'Europe, est qualifié de catastrophe par le politologue spécialiste d'Haïti Frédéric Thomas et laisse présager que le pays va être entraîné dans une nouvelle spirale de réformes ultralibérales. Pour revenir au sujet brûlant de l'épidémie de choléra, fin novembre 2016 également, l'ONU a présenté des excuses quant à son rôle insuffisant dans la lutte contre l'épidémie, sans toutefois reconnaître sa responsabilité juridique. Un plan d'action contre l'épidémie et pour l'indemnisation des victimes a été de nouveau annoncé, sans que l'on sache comment vont être surmontées les difficultés de sa mise en œuvre concrète et financière. À noter enfin que malgré les critiques, de nombreuses ONG font un travail de fond et de qualité depuis plusieurs années en Haïti, parmi lesquelles on pourrait citer, notamment pour la lutte contre le choléra, outre l'action humanitaire de l'UNICEF, ACTED, Solidarité, Médecins du Monde, ACF France ou encore la Croix-Rouge française. Citons également La Focale, ONG très active dans les champs de l'éducation, de la formation, de la culture. Merci à Cassav Haïti pour l'aide apportée à la réalisation de cette émission. Vous y avez entendu en habillage sonore des extraits de Joukli-Jou, une carte postale sonore réalisée par Félix Blum et Caroline Berliner, du titre Priéa de Jephté Guillaume et Bêcher les grooves de Conscience. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site internet de Radio Grenouille, ainsi que plusieurs liens qui vous permettront éventuellement d'approfondir votre compréhension à propos de l'épidémie de choléra, du travail du professeur Renaud Piarou, de l'aide humanitaire en général en Haïti et de son éthique, de la situation et de l'actualité haïtienne. www.radiogrenouille.com